C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 98 du 6 janvier 2025. Au sommaire aujourd'hui, ben oui, c'est notre première émission de l'année 2025. On en profite pour faire le bilan annuel, notre bilan annuel de l'année 2024 et nos prédictions pour 2025. On a nos habitués qui reviennent. Chloé Saint-Esprit, qui est stratège en diversité, équité et inclusion. Victoria Legault, directrice générale de l'ATQ, Aide aux trans du Québec. Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Et on reçoit Godéric Trobe, recherchiste à notre émission. Alors, l'arc-en-ciel se lève, donc une revue de l'année. Queer.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion.
Bien, salut, mes invités géniaux et géniales. Je suis tellement content de vous revoir aujourd'hui. Oui, alors, je vais commencer par vous parler un peu de 2024 parce que dans le livre L'État du Québec, publié récemment chez Somme Toute, on parle de grands éléments perturbateurs dans la prochaine année à venir, dont dans les prochaines années à venir, je devrais dire, les changements climatiques, la polarisation politique et sociale, les crises migratoires et l'intelligence artificielle qui fera en sorte que les gens ne sauront plus différencier du vrai et du faux. Alors ça, c'est notre toile de fond. Ça commence bien, n'est-ce pas? salut toute la gang. Chloé, ça va bien?
Ça va et toi, Denis?
Oui, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Je vais te demander de te rapprocher du micro, Chloé.
Absolument.
Merci. Victoria Legault, ça va bien?
Oui, très bien, merci. Merci de me recevoir encore.
Ah, on est toujours content de vous recevoir. Puis évidemment, Raphaël, qui est... vous êtes tous des habitués ici, Raphaël Provost.
Bonne année, tout le monde. Bonne année. Bonne et douce année.
Et là, vous ne le voyez pas, mais il y a... On va vendre un secret, mais on a au bout du fil, en Zoom, on a... notre recherchiste, Godéric Trobe, que vous connaissez parce qu'il vous a probablement contacté tout le monde à un moment donné ou à un autre. Alors, salut Godéric!
Bonne année!
Alors Godéric, tant pis pour toi.
Un lendemain de veille peut-être difficile?
Peut-être. Ben écoute, nous, on a décidé de continuer la veille. Alors, en studio, on a du... Oups, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on a du mousseux, du mou de pomme. Mais comme tu n'es pas là, tu n'en auras pas. Puis ça va faire un verre de plus pour Raphaël.
Voilà.
Ça commence bien. Bon, alors oui, on va avoir du plaisir parce que l'année 2024, ça n'a pas été très, très fort. Donc, je vous ai parlé de cette toile de fond qui ne va pas très bien. Puis je pense qu'on va commencer par l'événement peut-être le plus perturbateur de 2024. Puis je vous parlais de cet élément-là, l'élection ou la réélection de Donald Trump. Oh, misère. Qui veut commencer là-dessus? En quoi ça va nuire à nos communautés? Je vois tous les gens qui roulent leurs yeux vers le plafond.
Je peux me lancer. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on n'a plus le contrôle sur le résultat. On ne peut pas revenir dans le passé. Et moi, je me dis qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on fait différemment ici? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aux États-Unis. Donc, ça va avoir mille et un impact sur nous, mais c'est pas chez nous en même temps. Donc, il y a encore un aspect sur lequel on a le contrôle, c'est que ça se répercute pas et que ça devienne pas un doublon ici.
Oui.
Donc, sur ça, je pense qu'on a un certain contrôle. Puis, tu parlais du livre qui a été publié dans les derniers mois. Il y a un chiffre, moi, qui m'avait troublé, qui avait été partagé. C'est plus de 60 % des gens au Québec qui n'osent pas parler de ces grands sujets que tu nous as partagés en
oui,
début d'émission.
Tout à fait.
Et je pense que c'est la preuve avec ce qui s'est passé. Les gens n'osent pas se parler, puis peut-être que ça donne des choses comme ça. Si on apprenait à mieux se parler, à se jaser, à dialoguer, peut-être qu'on s'éloignerait de ces résultats-là.
Alors, tu me connais bien, Raphaël.
C'est mon interprétation.
Tu me connais bien. Moi, tu sais que tous les sujets dont personne ne veut parler, moi, je veux qu'on en parle.
C'est pour ça que j'aime ça venir ici.
Ben, je pense que je vais lancer la perche à Victoria.
Ah là là. Effectivement, c'est une question costaude pour commencer. Ben, j'irais dans le même sens que Raphaël. En fait, tu sais, je veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde en ce moment, notamment en Europe, avec bon, ce qui vient de se passer dans les dernières semaines aussi et les nouvelles élections qui s'en viennent finalement. Je pense qu'on n'est absolument pas à l'abri de tout ça, de ce vent-là. Je pense qu'en fait, que ce qu'on observe, c'est les gens ont besoin de changement, les gens veulent du changement, mais moi, ce que je dis, c'est est-ce que c'est nécessairement la seule façon d'avoir du changement, de s'en aller vers ça? Donc, restons à l'affût, essayons de continuer ici de sensibiliser les gens pour pas s'en aller vers ça. Moi, j'ai espoir qu'on a peut-être quelques mois, là, voire une année environ, pour apprendre de ce qui va se passer de l'autre côté.
Mm-hmm. Avant d'aller à Chloé, je pense que je vais laisser la parole à Godéric. Godéric, l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose.
Ouais,
hein?
Bon, on y a consacré plusieurs émissions avec Chantal.
Oui.
Effectivement, les États-Unis, c'est à 75 km de Montréal. Mm-hmm. C'est notre voisin le plus proche. Ça fait peur de voir que les Américains ont comme pas appris de leurs erreurs passées, mais c'est pas à nous d'en juger. Ce qui est inquiétant, c'est de voir la libération de paroles, de mots, qui sont agressifs, en fait, c'est qui sont très, on va parler de la polarisation, mais qui viennent restreindre la possibilité d'un échange. Très vite, c'est les anti, les pour qui s'affrontent. Ça renforce la polarisation, cette élection, à mon sens.
La polarisation, ça, c'est un mot, je pense, qui te parle, Chloé Saint-Esprit.
Oui, absolument. Puis je suis vraiment en accord avec ce qui a été dit par mes collaborateurs, collaboratrices en amont. Puis ce qui me m'effraie pour les suites, c'est un peu, si on regarde un petit peu, on dézoome justement ce qui s'est passé en termes de campagne électorale. Kamala Harris a mis plus les valeurs de l'avant, tandis que Trump, il a parlé plus en termes d'action et notamment d'arrêter la guerre. Donc, je trouve que Trump a été beaucoup plus stratégique que Kamala Harris. Et malheureusement, ma grille de lecture, c'est que les États-Unis ne sont pas encore prêts et prêtes à justement élire une femme, premièrement, une femme afro-descendante, si on rajoute la dimension intersectionnelle. Donc, et pour faire le lien avec ce que Victoria disait en Europe, il y a un mouvement qui s'appelle la théorie du rang remplacement, où justement les gens ont un peu peur de voir certaines populations disparaître au profit d'autres. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, ma grille de lecture, au niveau même mondial. Donc, c'est pas rassurant pour les suites et il faut garder, comme disait Raphaël, les espaces de parole où on peut échanger, se mobiliser, je pense. Oui.
Et en fait, hein, cette théorie, parce que c'est une théorie, là, c'est tout ce que c'est,
c'est
du grand remplacement, ben, il y a des gens qui souscrivent, même ici au Canada. Là. Moi, je ne sais pas.
Oui, mais on parle toujours de ce qui se passe ailleurs. C'est vrai, tu sais, puis je pense que ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que ça se passe aussi ici. Je prends un exemple, le documentaire de Léa Clermont-Dion, La peur au ventre.
Oui.
Elle a fait le tour du Canada parce qu'on se disait, quand il y a eu tout le revirement aux États-Unis en lien avec l'avortement, on se disait, c'est pas chez nous, nous, on est protégés, c'est même plus une conversation, ça se parle pas. Et pourtant, il y a près d'une cinquantaine de projets privés qui ont été déposés à l'Assemblée pour ramener même la discussion, puis aller à l'encontre de ce qui a été battu et débattu tellement longtemps, puis aujourd'hui, qui est supposé être un droit fondamental. Et pourtant, on se dit, c'est chez nos voisins, ça se passera pas ici. Et ça se passe ici en ce moment. Je pense qu'on a soulevé un tapis rempli de poussière. Puis il faut faire le ménage. Mmh. Mais il faut le faire le ménage en gang. Puis il faut apprendre. Je veux mal citer ce qui a déjà été dit, mais il faut s'inspirer de comment les gens dans le côté sombre se mobilisent de notre côté pour avoir encore plus d'impact. Puis je pense que c'est quelque chose qui va teinter notre prochaine année, le travail d'équipe.
J'aimerais souligner que notre 1, 2, 3, 4, 5, cinquième invité vient de se joindre à nous, Soufiane Ennahni. Salut Soufiane! Ah, je pense qu'il n'est pas connecté encore. On va aller... Ah, il est là. Soufiane, tu es là. Bon, je pense qu'il a des problèmes de connexion. Alors, on va continuer. Je voulais vous amener que cette polarisation-là, elle existe ici au Canada. Puis on commence à la voir. Je peux vous parler de l'Alberta. Est-ce qu'on peut parler de Paul Saint-Pierre Plamondon?
On peut.
Parlons-en.
On doit.
Parce que, tu sais, des fois, moi, je trouve ça intéressant. Raphaël, tu as mis le doigt dessus. On dit, ça se passe ailleurs. Mm-hmm. Ouais, ben, c'est parce que, je sais pas. Parlons de l'Alberta. Commençons-là. Voici le gouvernement qui a passé les lois les plus restrictives, les plus discriminantes vis-à-vis des communautés trans, entre autres.
Oui, absolument. Puis, ben, on voit que c'est ça s'en vient ici, ça se passe dans certaines provinces là, du pays. Puis justement, je crois que c'est la semaine dernière que la Cour suprême aux États-Unis a débuté là, un procès, ou a commencé à s'intéresser à un dossier qui, finalement, ça va les amener à prendre une décision, à savoir si c'est inconstitutionnel de bannir complètement les soins transaffirmatifs pour les enfants aux États-Unis, ce qui risque d'avoir des conséquences absolument catastrophiques, là, comme jugement, comme puis je pense en fait que bon, on le dit souvent là, mais évidemment, ces gens-là vont... Tout commence par les personnes les plus marginalisées, là, puis on parle des droits des personnes trans à disposer de leur corps de la façon qu'ils, elles et elles veulent, mais je pense définitivement que ça va s'en aller ailleurs pour affecter une plus grande partie de la population après, puis c'est dans la même continuité, finalement, qu'on a vu le renversement de Roe versus Wade. Là.
Parce que l'Alberta va loin, elle veut interdire les traitements... les traitements hormonaux, ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones, non? Et puis vraiment l'interdire, point la ligne. Là. On est vraiment rendu loin.
Mais c'est inquiétant.
Oui.
C'est vraiment inquiétant parce que ça, ces actions qui passent par la loi, c'est comme si ça portait une idéologie. Et en fait, on le voit avec l'élection de Trump, on le voit avec des démarches qui sont officiellement légalisées, comme un peu pour l'avortement, pour certains, la liberté du corps. Moi, ça ne me rassure pas pour la suite, mais il faut garder quand même une voie positive pour se dire qu'il y a des choses qui... Il ne faut pas... Je pense que c'est Simone Veil qui disait ça, il ne faut pas, ne jamais penser, je vais paraphraser un peu sa vision, mais ne jamais penser que nos droits sont acquis. Donc, il y a toujours un combat à mener au quotidien.
Tout à fait.
Au quotidien.
J'ai mentionné le nom de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas, je vais peut-être te lancer là-dessus, Godéric. Toi, tu as entendu son discours contre les woke. Et c'est quand même les woke. Là, c'est une autre affaire, là, parce que je ne sais pas trop c'est quoi, moi, ces affaires.
C'est ça. Moi non plus, je ne sais pas ce qui est woke. Si on le traduit en anglais, c'est éveillé. Moi, ça ne me paraît pas insultant comme façon de se définir. Mais ce que je trouve gênant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça empêche le débat. On met une étiquette et on juge l'autre avant même qu'il ait pris parole. On dénonce comme... on parle de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais on peut parler aussi du député de Québec solidaire qui a simplement mentionné qu'il y avait à l'Assemblée nationale des discours qui venaient créer l'autre comme un danger, comme une menace. Et toute l'Assemblée lui est tombée dessus. J'ai l'impression que c'est... Quand on montre le doux... On se trompe de problème, on se trompe de sujet, et oui, il y a une propension à des discours de ce type.
Oui, oui, justement. Est-ce qu'on devrait peut-être aller là, non? Parce que on va s'entendre. Non? C'est un défaut d'être woke, puis c'est quoi
non,
finalement? Hein?
C'est pas un défaut. Là, faut aussi, il y a une chose que les gens doivent retenir de notre entretien. Là. Ce n'est pas mal, ni un défaut, ni péjoratif d'être woke. Tu l'as super bien dit, Godéric. Il y a le mot éveiller, c'est vouloir prendre conscience des injustices sociales, prendre action en ce sens. Et j'ai envie de dire, on est tous un peu le woke d'un autre. Hein?
Oui.
Et PSPP, pour le nommer comme ça, est un woke pour d'autres. Donc, il faut arrêter de voir ça négatif, de mettre tout le monde aussi ensemble. C'est trop facile. On l'a vu dans les dernières semaines, il y a des gens qui s'étaient amusés à récolter tous les articles de journaux d'un certain média qui avait fait l'apogée de tout ce qui se fait au niveau des woke. Et ça n'a aucun sens. Puis ça associe toujours négatif à woke parce qu'on associe une nouvelle négative au mot quand ça devrait être tout l'inverse. Il faut vraiment retravailler sur notre compréhension de ce que c'est être woke parce que la définition, elle est belle, elle est déjà faite. C'est comment on la comprend.
PSPP a aussi pris des positions contre la langue inclusive, pas très ouvert vis-à-vis des personnes trans.
Il a pris des positions très à l'encontre même des personnes trans et non-binaires, là, j'ai envie de dire. T'sais, en fait, c'est souvent le discours assez similaire qu'on entend de les personnes non-binaires, c'est les woke radicaux de la gauche, blablabla, t'sais, tout pour faire peur. Là. Moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment... C'est effrayant parce que ce que je me dis des fois en entendant ces gens-là dire ça, ces élus, parce que bon, c'est pas le seul, je me dis, j'ai pas l'impression que profondément c'est des personnes qui sont méchantes et qui pensent que les personnes trans ou non-binaires là, sont là pour sont des mauvaises personnes et tout ça, mais tu sais, vraiment, il y a beaucoup d'élus qui surfent là-dessus en ce moment parce que c'est un sujet qui enflamme les discussions, puis il y a énormément de capital politique à faire là-dessus. Puis moi, ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, c'est que je me dis, quand on est rendu à parler de droits des personnes, comme on prend ça un peu pour de la monnaie d'échange, puis tu sais, finalement, pour gagner quelques votes et tout ça, ça, c'est très inquiétant, là. C'est très épeurant, moi, je trouve.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Discussion.
Bien, on va aller rejoindre. Ça discute dans le studio. C'est bien correct. Finalement, notre autre invité, parce qu'on avait de la misère à le rejoindre, mais là, il est là. C'est Soufiane Ennahni, qui est chercheur académique, podcasteur, conférencier et éducateur qu'on rejoint à Québec. Soufiane, je ne sais pas si tu as eu la chance de suivre un peu la discussion, mais on a parlé de toute cette instrumentalisation de nos communautés et des communautés de l'immigration, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on instrumentalise, qu'on nomme des woke pour gagner des votes, et que finalement, on se retrouve à subir les conséquences de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Soufiane?
Oui, je pense, d'un point de vue intersectionnel, je pense que la cause LGBTQ+ est strictement liée à la cause de l'immigration, parce que c'est un peu lié à notre vision du monde, finalement. Est-ce qu'on pense un monde de domination où on fait une hiérarchisation des communautés, ou un monde basé sur la solidarité et le vivre ensemble? Et d'ailleurs, une bonne partie de la communauté LGBTQ+, au Canada et au Québec, est issue de l'immigration.
Oups, le son vient de partir. Ah, c'est horrible, le Zoom, hein? C'est des fois là, quand ça nous fait des trucs. On va revenir à Soufiane tout à l'heure. Je suis désolé que ça arrive comme ça, mais justement, hein, l'intersectionnalité... Il est là. Allez, Soufiane, on reprend?
Ah, vous m'entendez?
Oui, on l'entend, oui. Alors, continue, okay, oui, tu nous disais qu'il y avait cette intersectionnalité des choses, et continue, oui.
Oui, en fait, ce que je disais, c'est que penser l'inclusion, c'est aussi penser l'inclusion de la communauté LGBTQ+, issue de l'immigration. Et j'ai l'impression que dans le débat au Québec, on oublie souvent que les personnes issues de l'immigration, en fait, ils reçoivent effectivement, vivant au Canada, dans un espace sécuritaire, mais aussi ils donnent beaucoup au Canada en termes de diversité. Ce n'est pas des gens qui viennent, je veux dire, sans culture, sans expérience, mais leurs expériences et leur culture apportent beaucoup au Québec, au Canada. Et donc, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que c'est lié à une vision de monde, à un monde où les rapports de domination sont remplacés par des rapports de solidarité, de bienveillance, où on n'exclut pas les individus. Je pense que c'est aussi ça, la cause LGBTQ+, c'est vraiment repenser le monde et repenser notre pacte social et notre façon de vivre ensemble au Québec et dans le monde d'une façon plus globale.
Alors, je vais te mettre sur la sellette, Chloé, parce que je vois que tu bouges beaucoup. Ça t'interpelle.
Ben oui, parce qu'on oublie la dimension. Bon, je vous donne quelques chiffres en lien avec les projections de Statistiques Canada d'ici 2036, donc on va dire dans 10-11 ans. Je vais parler, ils ont fait des projections sur les personnes des minorités visibles et surtout de l'immigration. Donc, ce qu'ils donnent comme données, c'est qu'on aura... Pour Montréal, par exemple, je crois que c'était 39 à 42% de personnes qui seront minorités visibles juste pour Montréal. C'est à peu près les mêmes données pour Toronto et Vancouver. Puis, en termes d'immigration, c'est à peu près similaire. Donc, si on a une dimension 360 de ce qui s'en vient dans 11 ans à peu près, qui est quand même, on va dire, moyen ou long terme... et si on rajoute justement la dimension des communautés LGBTQ+, les intersections, du moins les discriminations, sont vraiment difficiles. Et donc, les personnes qui peuvent vivre des discriminations dans leur propre pays, je vais prendre le Cameroun entre autres, les personnes des communautés LGBTQ+, au Cameroun, peuvent être menacées de, tout simplement, de mort ou de prison. Tandis que lorsqu'elles arrivent ici, elles ont d'abord la problématique de l'immigration à gérer, donc s'installer, retrouver un réseau, etc. Et ensuite, pouvoir entrer dans des réseaux sécuritaire pour pouvoir vivre leur vie pleinement. Donc ça, c'est des dimensions qu'on a tendance à oublier. Je voulais juste, je crois que c'est Soufiane qui a rajouté cette dynamique-là et je trouvais ça intéressant de rajouter une autre couche à ces causes-là.
Là, ça m'amène à vous parler justement parce qu'on parle de milieu sécuritaire, d'endroits bienveillants. Ben là, c'est parce que de plus en plus d'entreprises se désengagent des politiques. Et là, je vais le dire comme toi, tu le dis, Chloé, de diversité, d'équité et d'inclusion, dans cet ordre-là, c'est ça?
Oui, absolument. En fait, on entend souvent EDI dans la partie francophone du Québec ou même du Canada, parce qu'il y a aussi des francophones au Canada. Mais on devrait dire DEI. Pourquoi diversité? Pour reconnaître les diversités. Ensuite, on met en place des processus équitables pour aller vers l'inclusion. Donc, logiquement, dans le processus, ce serait DEI. Malheureusement, on a vu qu'il y avait un mouvement qui nous venait des États-Unis majoritairement. On voit que des entreprises privées commencent à reculer sur les initiatives en lien avec la DEI. Ce qui est très déplorable, on le voit même que ça a un impact ici. On a vu le cas de Molson cette année, on a vu le cas, ou l'année passée du moins, 2024, et on a vu le cas de Walmart qui commence aussi à se positionner en lien avec l'annulation des politiques en lien avec le DEI. La question que je soulève aujourd'hui, c'est juste de se dire, est-ce que c'est vraiment une démarche qui ne considère pas l'inclusion, ou est-ce que c'est plus un soutien à une certaine idéologie qu'on peut voir qui nous viendrait des États-Unis, entre autres? Je lance ça dans les airs.
Ah, une réponse peut-être ou,
Moi, ce que je retiens de ça, parce que je commente beaucoup sur cette question-là, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était justement le DEI. Quand on réagit comme ça, comme entreprise, comme personne, c'est qu'on n'a pas compris tout ce que c'était le DEI. Tu parlais de diversité. La diversité, là, c'est pas que les personnes LGBTQ+, c'est les personnes racisées, c'est les jeunes, les personnes plus âgées, les personnes en situation d'handicap, les femmes, c'est les hommes. La diversité, c'est très, très, très large. Quand on met en place des pratiques comme ça, c'est pas un truc de ressources humaines, c'est vraiment une culture où on s'assure que les gens s'y retrouvent. Tout le monde veut pas être PDG dans la vie, tout le monde veut pas prendre ta place, les gens veulent trouver leur place. Et quand on met des pratiques comme ça, c'est s'assurer que chaque voix compte, elle est entendue, et c'est ça un collectif. Et en plus, maintenant, les entreprises se sont même penchées pour se dire, on va essayer de faire convaincre les gens, c'est économiquement, c'est aussi avantageux à tous les niveaux, dans l'engagement, dans l'innovation, c'est une stratégie sur laquelle on ne peut même plus s'en passer. Je trouve ça dommage que des entreprises comme ça se retire. Puis en même temps, j'ai parlé avec certaines personnes aussi qui ont eu ces réflexions-là. Et moi, ce qui m'effraie, c'est le double standard. C'est de dire, parce qu'on voit qu'on perd certains revenus parce qu'on s'affiche, disons, au niveau LGBTQ+. Par contre, à l'interne, on dit qu'on est très, très inclusif.
Washing.
Oui, mais moi, ce mail-là est effrayant parce qu'on ne peut pas être à moitié inclusif.
Tout à fait.
Il faut l'être pour de vrai et il faut montrer l'exemple. Puis on ne peut pas juste retenir non plus les entreprises qui reculent. Il y en a plein d'autres qui avancent. Il faut se souvenir de celle-là.
Raphaël nous amène toujours à ce point de vue-là. Ça fait du bien. Continue, oui. Ça, on apprécie ça. J'ai parlé récemment dans une autre émission, j'ai fait une entrevue avec le directeur général de Renaissance. Mm. Puis qui disait, ça a été vraiment le fun quand on a eu le presque plein emploi, parce que là, tout à coup, il fallait qu'on donne des jobs à des gens qui on n'en donnerait pas habituellement parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne sont pas assez bonnes, puis qu'on découvre une main-d'œuvre. Et là, je parle dans ce cas-là de personnes avec peut-être des limitations dans notre grande société capacitaire, mais ça peut aussi vouloir dire des personnes de nos communautés aussi qu'on pense, ah, ben, ils valent pas la peine. Quand on se prive du DEI, on se prive peut-être d'une main-d'œuvre importante qui pourrait nous aider.
Ben là, c'est plus d'un point de vue peut-être RH, mais oui. Je pense que je suis d'accord avec justement ce que disait Raphaël. Le DEI, ce n'est pas uniquement un RH. Pour l'instant, c'est très associé à la pratique RH, mais ça devrait être une vision stratégique du leadership. Donc, on parle de haut gestionnaire, etc. Donc, ça veut dire que si une entreprise prend une position de retirer les politiques ou toutes les initiatives en lien avec la DEI, donc ça vient de quelque part, ça vient de la haute sphère. En ce qui concerne le recrutement, parce qu'il y a plusieurs phases, moi, ma perception, c'est que la DEI devrait faire partie intégrante du management, de la gestion de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif. Et comme tu l'as mentionné, Raphaël, on ne considère pas uniquement les personnes LGBTQ+, mais on devrait considérer dans certains milieux, il y a les personnes agiles dans certaines cultures, comme les industries un peu plus créatives, là, ça peut jouer un enjeu. Mais je pense qu'il devrait y avoir dans les événements ou même des sommets où des gestionnaires, des hauts gestionnaires se regroupent et rajoutent un point TUI à l'heure du jour lors des rencontres des comités de direction. Ça devrait être une priorité. Pourquoi? Parce que ça va, on l'a déjà mentionné, McKinsey, Deloitte ont démontré des rapports en termes d'innovation, en termes de meilleures prises de décision éclairées parce qu'on a des points de vue différents autour de la table. Quand on parle de DEI, on s'assure aussi que ce n'est pas uniquement le parcours, la couleur de peau, le sexe, le genre, l'orientation. On parle aussi de points de vue, de parcours scolaires différents aussi qui peuvent apporter sur la table. Mais après, est-ce que les gestionnaires sont équipés pour pouvoir justement accompagner leurs équipes diversifiées? Ça, c'est une autre question.
Soufiane, j'aimerais puis je vais aussi demander à Godéric de répondre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait craindre de voir que c'est il y a ce mouvement? Est-ce que ça, comment vous voyez ça, vous autres, ce mouvement anti-DEI? Moi, je vais prendre le terme de Chloé. Je me suis inscrit à ce terme-là.
Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas étonné, parce que, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël qui disait que finalement, c'est une culture. Et je pense que dans un système aujourd'hui ultra-capitaliste, enfin majoritairement, où les rapports sont plus basés sur la domination, sur le gain exagéré, en fait, je pense qu'il n'y a même pas de place à l'égalité, la diversité, l'inclusion. Et finalement, peut-être mettre en place ces diversités, égalité, inclusion, c'est... Équité, inclusion, c'est repenser finalement, c'est vraiment toute une culture, c'est repenser notre rapport au travail, notre rapport à l'épanouissement, pourquoi on travaille, notre rapport à la croissance. Je pense que c'est un débat qui mérite d'avoir lieu aujourd'hui au Québec pour finalement mettre en place l'EDI comme culture, comme une pensée, comme une philosophie, mais pas juste comme une case à cocher quand on est une entreprise qui fait des gains, dans beaucoup de cas, exagérés.
Godéric, toi qui fais de la recherche pour nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, je sais qu'on s'est déjà dit, nous, qu'on voulait que l'émission soit la plus inclusive qu'on pouvait faire et qu'on donne la parole parce qu'on s'est dit qu'il y a des choses qu'on va manquer si on n'écoute pas les gens auxquels on ne pense pas habituellement. Toi, comment tu vois ça, ce mouvement anti-DEI?
Tout à fait, juste pour abonder dans ton sens, Denis, on essaye d'avoir le plus de points de vue différents et représentatifs de la société autour de la table et d'aller chercher des voix qu'on n'entend pas nécessairement toujours. Comme vous mentionnez, c'est le choix de beaucoup d'entreprises américaines. C'est en écho à l'élection aussi de Trump, à la mouvance de la droite conservatrice qui émerge de plus en plus. C'est un marqueur idéologique. Mais c'est peut-être une occasion pour le Canada et le Québec de se démarquer parce que l'inclusion font partie de nos valeurs, font partie des choses qu'on a envie de promouvoir dans la société. Tu mentionnais, Chloé, que c'était un chemin, l'inclusion, c'était un objectif. C'est aussi ce qui m'a fait adhérer en tant que... qui m'a fait me découvrir en tant qu'allié de la communauté LGBT, cette idée qu'on chemine vers une société, vers l'émergence d'une société plus inclusive, et que ça prend justement des alliés pour pouvoir atteindre cet objectif.
On va faire nous la petite pause habituelle de 2 minutes et on vous revient tout de suite après.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
C'est notre revue de l'année 2024 et on va parler un petit peu de ce qu'on attend en 2025. On y arrive à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je voudrais juste répéter les noms des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons avec nous Victoria Legault, directrice générale de l'aide aux trans du Québec, Chloé Saint-Esprit, qui est stratège en diversité, travaille avec les entreprises. Mon Dieu, tu fais beaucoup de choses, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que je pense qu'on va juste s'en tenir à ça. Raphaël Provost, qui est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. À Québec, Soufiane Enani, qui est chercheur académique podcasteur. Bon, je vais le laisser podcasteur parce que nous, on parle plutôt d'un gars qui fait de la balado-diffusion, mais disons qu'on va garder ce terme-là. Je te taquine, Soufiane, et qui est conférencier éducateur. Et notre recherchiste, Godéric Trobe, qui est là avec nous par visioconférence. J'ai encore des sujets négatifs, mais je n'ai pas le choix. La haine dont on fait l'objet, nos communautés, puis là, c'est pas de la petite affaire. Je vais vous sortir un chiffre, je ne vais pas trop en mettre, mais 338% de hausse de la haine envers nos communautés depuis 2013. C'est quand même 338%. C'est au Canada, ça, on ne parle pas d'un autre pays. Et ça inclut la cyberintimidation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Là, je vous envoie de quoi. Je sais que c'est négatif. Puis je sais, Raphaël, ben écoute, toi et moi, on le sait. J'ai vécu de la haine sur les réseaux sociaux. Tu en as vécu aussi.
Oui. C'est le tranchant de s'exposer, hein? Mm-hmm. Ça ne devrait pas l'être.
Ouais.
Il ne devrait pas y avoir de tranchant à prendre parole comme je le fais sur différentes plateformes. Surtout si quand on écoute ce que je dis, je prône l'écoute, le partage, la bienveillance, le bonheur, le fun. J'accuse jamais personne de quoi que ce soit. Et je l'ai constaté beaucoup dans les dernières semaines sur différentes plateformes, pour ne pas nommer X, anciennement Twitter et Reddit, que je fréquente jamais, mais que je suis allé visiter par pur hasard parce que je cherchais certaines choses. Et de voir que des gens reprennent mon visage, ils font des commentaires sur mon apparence, sur ma masculinité, sur mon orientation sexuelle, sur moi, sur tout, d'une violence décomplexée, mais décomplexée. Puis à une époque, on se cachait derrière une photo de chat pour le faire. Aujourd'hui, les gens ne se cachent même plus. Leur prénom et leur nom de famille est là. Et c'est gratuit. Et chaque fois, ça me saisit. Et ça me saisit malgré tous les outils, malgré le réseau, malgré les plateformes que j'ai, ça me pogne. Donc, je peux à peine imaginer quelqu'un qui n'a pas tout ce que j'ai, comment ça peut-être être la goutte de trop. Parce que là, tu parlais du 338, faudrait aussi parler du taux de paix, qui augmente aussi des personnes qui passent malheureusement à l'action pour s'enlever la vie parce qu'ils peuvent plus subir ça. Parce que c'est trop facile de dire que les médias sociaux, on devrait déconnecter. C'est un outil formidable pour connecter avec d'autres personnes, avec des gens qui nous ressemblent enfin. Une source aussi de connexion, d'éducation. Donc, c'est trop facile de dire qu'il faut juste plus y aller. Il faut comment nous protéger de ça. Puis je pense que les plateformes ont une responsabilité à prendre. Elles ne le font pas parce que justement, ces commentaires-là sont laissés là. Ils vivent et atteignent des personnes. Et on oublie trop souvent l'humain derrière l'écran qui reçoit ça. Et il faut aussi travailler sur les gens qui partagent ça parce que clairement, il y a une détresse humaine et il faut l'écouter puis il faut faire quelque chose là-dessus.
Les personnes trans sont probablement les personnes qui vivent le plus de violence et de haine sur les réseaux sociaux et dans la vie en général.
Oui, absolument. Puis il y a quelque chose que Raphaël dit qui me parle beaucoup. Ben, tu sais, je pense que cette haine, cette violence-là est de plus en plus décomplexée, là. Vraiment, effectivement, les gens se cachent plus pour cracher cette haine. Puis nous, on le constate vraiment chez Aide aux Trans du Québec, ce qu'on fait, nos services principaux, c'est des services directs à la population. Donc, c'est de l'aide psychosociale, c'est des rencontres de groupes de soutien et tout ça. Puis on le voit, en fait, l'équipe d'intervention m'en parle fréquemment. On le voit dans nos rencontres à quel point les gens qui viennent nous voir vivent de la détresse, de l'isolement, peut-être encore plus qu'il y a quelques années, en fait. Récemment, il y a quelqu'un de l'équipe d'intervention qui m'a dit... Hey, j'ai rencontré une personne aujourd'hui qui m'a dit... Je sais que d'entamer une transition pour moi, d'entamer une transition de genre pour moi, c'est la meilleure chose à faire. C'est ce que je dois faire parce que c'est vraiment... je vis de la dysphorie de genre et tout ça. Puis, mais la personne disait, mais j'ai pas le courage, puis je le ferai pas. Je le ferai pas parce que j'ai vraiment l'impression que ma vie va devenir un enfer si je débute ma transition, tu sais. Puis c'est absolument terrible. Là, il y a quelques années, on était dans la démystification de la transidentité, je vais dire, et tout ça. Puis là, on est vraiment ailleurs. Là. Les gens ont peur de débuter une transition parce qu'ils ont le sentiment que ça va les couper de toutes les opportunités. Donc ça, je trouve ça vraiment effrayant qu'on y retourne là. Puis, tu sais, juste moi, sur le plan personnel, j'ai entamé ma transition il y a environ 8 ans. Puis j'en parlais avec des collègues justement récemment et je disais, quand j'ai débuté il y a 8 ans, j'ai l'impression que les gens venaient vers moi avec une curiosité qui était parfois peut-être un peu, je veux pas dire malsaine, mais plutôt maladroite.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est plus de la même façon que ça se fait. En fait, les gens se ferment complètement. Il n'y a plus cette curiosité-là à aller vers l'autre puis à comprendre ses réalités.
Soufiane, tu es à Québec. Je pense que j'aimerais ça qu'on parle de ce phénomène parce que, bon, on parlait de certains chroniqueurs, on va les nommer, là, de Québécois, de Cube, etc. Mais à Québec, il y a même un phénomène qui s'appelle la radio poubelle. Et je me demande si ces leaders d'opinion-là, ces personnes qui ont une tribune, est-ce qu'ils ont abandonné leur responsabilité sociale ou veulent juste avoir des clics puis avoir de l'auditoire puis ils disent n'importe quoi? C'est épouvantable ce qu'on entend. Puis la radio à Québec, c'est quelque chose, là.
Oui, je pense que récemment, il y a eu comme une libération de la parole haineuse. Et je pense que cette libération, elle est aussi liée au contexte géopolitique. Je veux dire, quand on a aux États-Unis un président qui base une bonne partie de sa campagne sur des propos transphobes, on laisse. Ça a de l'impact au Canada, au Québec, mais partout dans le monde. Il y a une libération de cette parole haineuse. Aujourd'hui, on le remarque au Québec, mais aussi partout dans le monde. Si vous voulez, moi, je pars du principe que la haine ou le discours haineux est comme un cancer. Et quand on veut le traiter, on ne traite pas les symptômes ou son expression, mais on traite l'origine, la cause, la raison de cette haine. Et je pense que la raison, entre autres, c'est vraiment l'absence des espaces aujourd'hui, de sensibilisation, d'information, d'apaisement, parce que cette parole, ce qu'elle fait de pire, c'est qu'elle parle aux peurs des gens, aux peurs au pluriel, à la peur, cette peur de l'autre. Et cette peur, son origine, c'est l'absence de la connaissance, l'absence des espaces de dialogue dans la société. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un mouvement politique qui veut se nourrir de cette peur pour faire de la politique politicienne, mais aussi parce qu'ils veulent tirer des profits de la division au sein de la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire face à cela par la criminalisation, c'est-à-dire mettre en place des lois contre la parole haineuse, parce que la parole haineuse n'est pas un avis, n'est pas une opinion, mais c'est quelque chose qui laisse des séquelles sur les individus. Et donc, c'est un délit, je pourrais même dire que c'est un crime, mais pas que la criminalisation, aussi créer des espaces. Ça va pour la cause LGBTQ+, mais aussi les propos anti-immigration, les propos racistes, les propos antisémites, les propos islamophobes. Enfin, il faut faire face à cela par la criminalisation, mais aussi par la création des canaux de dialogue.
J'ai entendu respirer, même je pense que Godéric, tu veux intervenir. Puis là, Godéric, je vais le dire, tu es français d'origine et en France, il y a des lois. Puis on a vu ce qui se passe avec le metteur en scène Thomas Joly qui a subi de la haine épouvantable sur les réseaux sociaux et les personnes ont été accusées. Là. Elles vont devoir comparaître. Parle-nous un petit peu de ça parce que ça existe chez vous, ça, en France. Oui,
ouais, non, tout à fait. Malheureusement, ça ne connaît pas de frontières. Mais effectivement, il y a des réponses pénales qui peuvent être apportées. Nous, on a suivi avec Denis les malheureux, les guet-apens qui ont eu lieu en Estrie. Aussi, tu sais, des gars qui se rencontrent via des applications, puis qui se retrouvent dépouillés, agressés par des gens qui se servent de leur vulnérabilité pour s'en prendre à eux. Donc, il y avait des motifs à la fois crapuleux et homophobes, très clairement.
Oui, mais ces personnes ont refusé de donner des entrevues parce que, tu vois, c'est ça le problème aussi, la honte qui est associée. Tu es victime d'un crime, puis tu te caches parce que tu vas même pas chercher d'aide parce que tu es victime d'un crime homophobe. Puis tout ce que tu as fait, tu as rencontré quelqu'un sur une application.
Les gens veulent vivre et pas forcément être des porte-parole.
Oui, je sais, mais je trouve ça épouvantable qu'ils soient à ce point-là d'avoir cette honte-là qui vient avec ça.
C'est-tu qu'est-ce que nous, on va faire dès les prochains jours dans les écoles secondaires qu'on visite au Québec? On va remettre un extrait de la Charte des droits et libertés aux jeunes pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont des droits, qu'ils ne peuvent pas vivre n'importe quelle forme de discrimination, peu importe laquelle, et qu'on donne 8 ressources en ce sens-là. Parce que ça n'a pas de bon sens. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Les jeunes ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit de subir ça. Mm-hmm. On va ramener ce côté-là légal dans la conversation. On en est rendu là parce que les jeunes se décomplexent, comme tu le disais, Victoria. Mm-hmm. Ils disent, ben, c'est de la liberté d'expression. Non. Au Québec, on ne tolère pas la discrimination sous aucun angle. Il y a des recours, puis je pense qu'on est rendu là à devoir le rappeler, malheureusement, puis Sofiane le disait. Mais il faut bien le faire aussi parce qu'on ne veut pas non plus alimenter cette polarisation-là. Non. Mais s'il faut le faire, on va le faire.
Ben, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une loi au Canada comme ils ont en France? C'est peut-être pas parfaite, la loi en France, mais ici... Moi, je me rappelle, j'avais Naoufel Tessayoni, qui est de QueerTech, qui milite pour ce genre de loi. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir ça ici?
Je pense que c'est une décision collective à avoir, premièrement. Et la loi qui existe aujourd'hui, donc la loi, par exemple, à l'accès à l'égalité en emploi, si je prends celle-ci, c'est plus pour les organisations, les entreprises, les OBNL, etc. Donc là, on est plus en termes de recrutement. Mais normalement, si on regarde sur le site de la Comité des droits de la personne et droits de la jeunesse, toute discrimination dans le cadre du travail est normalement punissable par la loi. Là, on parle du cadre du travail. Mais comme le disait justement Raphaël, quand on est plus dans une dimension, par exemple, le cyberattaque, aujourd'hui, on sait que ça va beaucoup trop vite et on parle de responsabilisation sociale aussi au niveau des entreprises. Si on regarde le cas de X ou l'anciennement Twitter, ça a été racheté par Elon Musk. Donc, en fait, le leadership, si on voit la parole qui se libère entre guillemets, là, grand guillemets, italique, souligné, c'est qu'il y a une vision qui est imposée aussi. Et le truc, c'est que comment, de quelle manière la loi peut contrer, parce que le cyberattaque ou les cyberintimidations, ça va extrêmement vite. Pour faire le lien avec ce que tu disais, si une personne qui a été sur une application de rencontre qui s'est fait attaquée et qui a subi de la transphobie ou de l'homophobie. Là, le contexte est libérer la parole des personnes qui subissent, mais en même temps, qu'est-ce que la loi peut faire? C'est toujours cette délicatesse. Et quand on subit je ne suis pas avocate du tout, ni juriste, ni quoi que ce soit, mais je pense que là, on revient à la responsabilité collective, non pas uniquement au niveau des organisations, des individus. On parle de structure, on parle de système, donc il faut changer les lois et pour ça, il faut aller... dans les instances où on peut faire ces changements-là.
Je vais faire un petit aparté, mais vous avez regardé peut-être Stat, où il y a une personne, une personne trans qui se fait attaquer dans un guet-apens. On parle quand même d'une série télévisée, mais je trouvais ça très... Ça parle, ça nous dit quelque chose. Mmh. Cette personne-là ne veut pas parler de ce qui lui est arrivé. Et moi, je trouve que ça parle... Si les gens qui sont victimes d'un crime comme ça n'osent pas parler à la police, c'est parce qu'ils ne sentent pas que c'est ouvert. Il y a des problèmes, là.
J'ai envie de rajouter un fun fact. C'est quelque chose que j'ai vu dernièrement qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que, là, je suis allé rechercher la nouvelle sur mon téléphone.
Il n'y a pas de trouble, c'est
il y a deux femmes qui avaient propagé sur Internet en 2021 la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme trans.
Oui.
Et ces deux personnes-là ont été récemment condamnées à payer plus de 8 000 $ en France. Donc moi, je trouvais ça fascinant parce que je me dis, c'est un exemple excellent qui démontre aussi que cette transphobie-là, cette haine-là qui nourrit, elle affecte beaucoup plus que les personnes trans. Puis c'est un autre excellent exemple qu'on a vu récemment, c'est Iman Khelif aux Jeux Olympiques, qui s'est fait attaquer de toutes sortes. Tout le monde l'accusait d'être trans parce qu'être trans, c'est terrible.
C'est ça l'affaire, c'est qu'on les accuse de quelque chose qui devrait pas,
qui devrait
être,
pas être une insulte.
Même si Brigitte avait été trans.
C'est une réalité.
Oui, mais c'est là où ça devient problématique parce que Brigitte Macron, ça reste quand même la première dame de France. Et si on regarde une personne, on va dire plus lambda ou citoyen ou citoyenne, est-ce qu'elle aura accès au même canot, à la même représentation,
Ouais, etc. C'est un excellent point.
C'est
un privilège, on s'entend vraiment.
Oui, non.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion.
Ben, j'aimerais qu'on parle peut-être d'un petit manque de solidarité dans nos communautés, parce que tu sais, on est là à pointer tout le monde du doigt, puis dans nos communautés, moi, je trouve pas que les choses vont si bien que ça. T'sais, régulièrement, je vois des commentaires, c'est LGB, là, parce que le T, c'est pas nous autres là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que nos communautés sont si solidaires qu'elles devraient l'être?
Non.
Non.
Non. Moi, je suis arrivé très naïvement dans le milieu en me disant que mes premiers alliés à être les gens qui me ressemblent. puis 4 ans plus tard, c'est tout l'inverse. Uh-huh. C'est souvent des gens qui ne me ressemblent pas, qui font pas partie de ma propre communauté, qui m'ouvrent des portes ou qui me soutiennent ou qui m'envoient même des messages, plus souvent qu'autrement. Mmh. Je nommerai pas les communautés, mais c'est tout sauf la mienne qui me soutient. Puis je dis pas qu'on est tous ennemis entre nous, mais je pense qu'on reproduit quelque chose qui nous a été imposé pendant longtemps, ne pas s'apprécier soi-même. C'est assez difficile d'apprécier les autres quand on a passé notre vie à se faire renfermer, à ne pas s'aimer, à ne se faire diviser aussi. Anecdote, il y a quelques années, j'avais mes retrouvailles du secondaire. Moi, j'ai été le premier à faire un coming out dans ma cohorte. On était près d'une centaine. Et quand on s'est retrouvés aux retrouvailles, on était près de 12 personnes queer. Mm. Mais on avait de la misère à connecter entre nous. Il n'y avait pas quelque chose de naturel.
C'est de la contagion sociale.
Oui.
Ah, ouais.
On serait hétéro si c'était ça le principe.
Il y a eu du grooming aussi. Hein? Oui.
Mais il y avait quelque chose encore là, pas très naturel dans nos connexions parce oui. qu'on nous a forcés à ne pas se rassembler parce que ça pourrait être dangereux pour nous. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça dans l'effet de communauté. C'est difficile de connecter avec des gens qui nous ressemblent parce que quand on était entraîné à ne pas s'apprécier, ça donne ça peut-être.
Victoria, si j'en voyais, moi, peut-être les gens ne semblent pas se rappeler que le point de départ pour beaucoup de gens dans notre communauté, c'est Stonewall.
Mais oui,
effectivement. Et c'était des femmes queer, trans, racisées. Qui
ouais,
était derrière ça.
C'est intéressant. Hein,
on ouais. l'oublie, hein?
Puis on l'oublie, oui, totalement. Puis c'est vrai que j'en parlais ça aussi récemment avec quelqu'un, puis je lui disais, tu sais, ce qui m'inquiète le plus ces temps-ci, je pense que c'est même pas cette haine-là, bon, qui vient de l'extérieur. Évidemment, là, ça m'inquiète parce qu'on voit quand même, on constate une hausse, puis surtout un niveau de degré de violence qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Mais je veux dire, la haine qui fait la plus mal, je pense que c'est celle qui vient vraiment de l'interne.
Oh oui, tout à fait.
Puis, tu sais, c'est là qu'on se dit... Seigneur, on est déjà attaqué de toutes parts, là, tu sais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ça? Mais ça l'est pas, évidemment.
Ben, nous qui recevons des commentaires, et nous, je sais pas pour vous autres, mais ceux qui s'exposent un peu publiquement, comme Raphaël et moi, la haine la pire que j'ai reçue, c'est celle que j'ai reçue de la communauté, suivant une photo de moi avec Madame Pop 2024. Imagine-toi, la première fois, c'était une personne identifiée femme qui avait reçu ce titre-là. Je la reçois à l'émission. Puis pour la peau, j'ai mis un masque. Et je me suis fait demander des choses abominables si je faisais pipi sur mon petit piquet. Hein? Il fallait qu'on me sorte le soir. J'en reviens pas. Ça venait de la communauté. Je sais pas comment... De ton côté, Chloé, comment... Je sais pas comment tu vois ça, toi.
Ben, j'ai une grille de lecture assez, je dirais... moi, je pars toujours de l'événement de Stonewall. Donc, il y a eu comme une sorte de réappropriation d'un certain combat, d'une certaine minorité... d'une communauté marginalisée. Mais si on regarde aujourd'hui, ce ne serait que les visages ou les affiches ou les gens qui sont présentés dans les visuels, dans les publicités au niveau des personnes LGBTQ+, il y a eu une évolution ces dernières années. Avant, c'était majoritairement des personnes blanches, mais il faut rajouter aussi, là, on parle de bispiritualité aussi, on parle aussi des communautés racisées, on rajoute aussi l'angle de vue des personnes avec un handicap visible ou invisible. Donc, je pense que et c'est là où parfois il y a un combat qui se mène entre dans les mêmes communautés, c'est de se dire qui va avoir le plus d'espace, qui va avoir le plus de voix. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir de se dire qu'il y a différents styles, différents marqueurs de diversité dans les mêmes communautés. Mais je serais très curieuse de voir, par exemple, une personne racisée qui s'affiche ouvertement dans ces communautés-là. Après, est-ce que dans son pays, est-ce que dans sa culture, est-ce que c'est là où ça devient très, très compliqué. Donc, est-ce que cette personne a aussi, elle, accès à ces espaces-là pour pouvoir s'exprimer en tant qu'individu, pour faire le lien aussi avec l'immigration? On a une grande vague d'immigration. On sait que le Canada est plutôt une politique multiculturelle, donc on accepte un petit peu les identités des autres. Mais après, est-ce que ces personnes-là vont oser prendre la parole, s'afficher dans ces communautés-là et comment ce sera perçu? Donc, je pense que dans les mouvements, ne serait-ce que dans la Pride, que ce soit, même si ce sont des initiatives, il faut rappeler ça à l'ordre, dans le sens c'est que il y a de la diversité dans ces mêmes communautés et on ne devrait pas dire la communauté LGBTQ+.
Les communautés.
We should say les communautés.
Tout à fait. Est-ce que tu me permets, Soufiane, je pense que je vais te outer un petit peu parce que tu es récemment arrivée au Canada. Là, Oui. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a de la place pour des personnes issues de l'immigration qui sont différentes? Est-ce que tu te sens à ta place?
Oui, enfin...
Ah, là, je sais, c'est une question loadée, je suis désolé.
Si vous voulez, oui, parce que Moi, je pars du principe que sa place, enfin, il faut la créer, surtout quand on vient d'ailleurs. Il y a aussi cette volonté de créer son espace, de créer sa place et d'exister. C'est une lutte en soi, exister dans un autre pays. Mais je veux aussi dire que non, ce n'est pas toujours facile. Enfin, ce n'est pas facile parce que, si vous voulez, effectivement, dans la communauté LGBTQ+, il y a aussi du. Enfin, il peut y avoir du racisme, il peut y avoir de l'islamophobie. Des fois, il y a des questions qui, si vous voulez, sont pas très. Enfin, c'est des questions qu'on peut poser aux autres, mais c'est le fait qu'ils sont posées mille et une fois qui posent problème par rapport, je sais pas, à la religion, par rapport à là où on vient. Enfin, c'est ça ce qui fait la difficulté de la chose. Mais il y a aussi une autre dimension de réponse. Ce que je veux dire, c'est que quand on est une personne concernée, quand on est une personne LGBTQ+, ça ne nous épargne pas du patriarcat, en fait. Si vous voulez, on vit dans un monde patriarcal. L'éducation, l'école est majoritairement patriarcale. On sociabilise d'une façon patriarcale. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour penser cela. C'est un livre de Julien Drouhard, qui est un écrivain français, qui a écrit Sortir de l'hétérosexualité. Où dans ce livre, il essaie de penser ce qu'il y a d'hétérosexuel, ce qu'il y a de patriarcal en nous, même quand on est concerné. Je pense que les conflits dans la communauté LGBTQ+ sont aussi le produit du patriarcat. Et finalement, il doit y avoir un travail de déconstruction au sein de la communauté. Et c'est ce travail de déconstruction qui pourrait nous mener vers quelque chose de bienveillant, apprendre à s'écouter. Apprendre à écouter la parole des personnes concernées, à apprendre à aimer autrement, apprendre à nouer des amitiés autrement. Et si vous voulez, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail nécessaire pour vivre cette diversité, inclusion et équité dont on parle. Mais je pense que le point de départ, peut-être, c'est l'écoute de l'autre et comprendre que finalement, c'est vraiment écouter qui pourrait nous mener vers quelque chose de plus bienveillant entre nous dans la communauté. Je pense que les conflits dans la communauté, c'est vraiment le résultat du jugement, le résultat de la domination aussi. Et puis, il y a aussi autre chose que j'aimerais rajouter rapidement. Si vous voulez, quand on est une personne queer, on vit dans la honte. Il y a cette citation de. Au début, il y a eu l'injure. Et je pense de Didier Eribon. Et je pense que ces injures, les blessures qu'on reçoit quand on est une personne queer, dans l'enfance, dans l'adolescence, ils laissent des traces. Et ces traces se manifestent aussi dans la communauté. Donc finalement, il faut aussi penser comment les guérir, comment réparer, comment réconcilier pour créer une communauté LGBTQ+, plus solide, qui est capable de moins blesser et plus aimer.
Il reste plus beaucoup de temps. Je vais lancer la question à toi, Godéric, mais on va faire le tour de la table. 2025, Godéric, qu'est-ce qu'on peut prévoir et espérer?
Alors pour cette année 2025, c'est pas parce qu'on assiste à du repli et de la fermeture qu'on ne peut pas développer des initiatives qui favorisent l'échange ici et la rencontre de l'autre. Et on va continuer à le faire dans l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin, en vous
Ah, t'es
donnant la
gentil.
parole, en se faisant l'écho de toutes les belles initiatives qui se produisent, qui font moins de bruit, mais qui sont aussi existantes que le bruit qu'on entend d'un bout à l'autre du Canada.
Ouais, ben, je vais juste renchérir là-dessus. Je vais dire que nous, on ne donne pas la voix à personne parce que les gens ont leur voix. On fait juste monter le volume. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer.
C'est ça.
C'est vrai. Raphaël, je. Ah non, je pense que je vais le garder pour la fin. T'es la personne avec le plus bel espoir, souvent.
Ça met de la pression.
Ça te met de la pression, hein?
Ça va bien aller.
Je suis comme ça, hein? J'aime bien les. Ben, vous êtes une équipe en or, alors. Je vais aller avec toi, Chloé, 2025.
2025, j'irai plus de mobilisation intelligente et plus de solidarité, quels que soient en fait les marqueurs de diversité. Et ça, c'est vraiment au niveau plus communautaire. Et j'irai peut-être aussi au niveau plus entreprise. Je donne un exemple, s'il y a des personnes qui font partie des communautés queer et qui s'affichent et qui ont fait leur coming out, qui n'hésitent pas ou elles n'hésitent pas à prendre parole dans les entreprises, que ça peut envoyer un message très positif pour les autres.
Victoria.
Voilà.
En 2025, moi, j'attends le rapport du comité de sage sur l'identité de genre. Oui. Donc, je vais juste espérer de ce côté-là que c'est bel et bien basé sur les données de recherche scientifique et communautaire, parce que ça joue en notre faveur, donc... Mais je pense aussi que... Écoute, les personnes trans et non-binaires ont toujours été très, très fortes, n'ont jamais lâché prise, alors moi, je pense qu'il va y avoir... Espérons beaucoup de solidarité et d'amour là, et de doux.
Sofiane, je te donne une minute.
OK. Bah, pour moi, ça va être la lutte. Pour moi, c'est la plus grande espoir, la lutte contre les systèmes de domination, tels qu'ils soient, que ce soit dans les espaces politiques ou les espaces les plus intimes. Donc, lutter, c'est ma source d'espoir et voilà.
Ah, Raphaël!
J'ai pu me préparer. J'ai l'impression et je nous souhaite que la solidarité va se tisser puis qu'elle va être encore plus solide et qu'on va se rappeler qu'il y a des Astérix en nous au Québec puis qu'il faut être le village de Gaulois face au reste puis se protéger.
Alors, ben, je vais donner le dernier mot. Moi, comme journaliste, j'espère qu'on va trouver une façon de contrer la désinformation. J'en peux plus de lire des choses qui sont basées sur des opinions. Je pense que c'est Henry Ford qui avait dit que l'opinion est surestimée et que les idées sont sous-évaluées. Et je le cite peut-être pas bien, mais j'ai toujours retenu ça comme journaliste et j'en ai assez de voir à tout bout de champ me faire confronter à des gens qui m'arrivent avec des choses. Mais il n'y a pas de faits, il n'y a pas de recherche. Donnez-moi des faits. Si on était tous sur les faits, on pourrait avoir des désaccords sur l'interprétation, mais au moins, on partirait sur les mêmes bases, n'est-ce pas?
C'est bien tellement.
Oui.
On se souhaite santé.
Tu parles des données, oui, bonne absolument.
Des données, des... Oui, tout, là, c'est vraiment ça. Puis moi, je vous avoue là, que j'ai trouvé ça difficile depuis quelques années de devoir être confronté à des faussetés continuellement, alors que moi, ma rigueur, c'est important d'avoir des faits. Et quand je me trompe, vous savez que je me corrige aussi, mais on n'est pas là, là.
L'humilité.
Mes invités en or, Soufiane Ennahni, Guédéric Trobe, Raphaël Provost, Victoria Legault, Chloé Saint-Esprit, merci beaucoup. Je vais remercier aussi Maurice Bolduc qui est derrière la vitre, qui a fait la mise en onde de cette émission. Nous, on vous revient la semaine prochaine avec une émission régulière. Merci tout le monde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union, Chabot.